ce cycle est organisé en partenariat et avec le soutien de la revue Réseau, revue du réseau socialiste des organisations de jeunesse, avec la Fédération bruxelloise des jeunes socialistes et les jeunes socialistes d'Anderlecht, que je voudrais remercier. Je mentionne aussi que nous avions sollicité les cadres du Parti socialiste pour qu'ils viennent éventuellement dire un petit mot, et de la radio dite de service public, sans succès. Il semble que dans ces sphères, on pratique encore sur ces questions la politique de l'autruche. En attendant qu'ils sortent la tête du sable, il ne nous est pas interdit de réfléchir à ces questions, de mener une réflexion de fond sur ces sujets, sur cette crise idéologique ou sur ce déclin, selon certains, de la gauche européenne qui devrait, me semble-t-il, préoccuper tout le monde, quelle que soit sa sensibilité politique. Dans cet ordre de préoccupation, par exemple, pour moi, que je mentionne le dernier numéro de Philosophie Magazine qui, donc, le socialisme peut-il renaître, ce qui implicitement suppose qu'il y a un problème quand on doit renaître. Mais on peut aussi mentionner donc, la revue Le Débat qui a pris les devants depuis longtemps et qui a consacré un certain nombre de dossiers de discussion à cette question. La revue Le Débat dont Marcel Gauchet est rédacteur en chef et depuis longtemps. Alors je mentionne ici deux discussions autour de deux ouvrages de conférenciers ultérieurs. Donc en 2006, en novembre-décembre 2006, autour de l'extrême gauche plurielle de Philippe Reynaud, qui viendra le 27 mars, et ici, donc déclin de la gauche occidentale, en septembre-octobre 2009, autour du travail du livre qui va être traduit en français de Raffaele Simonet, qui viendront donc ici le 27 mars et le 8 mai. C'est d'ailleurs grâce à ce travail que nous avons pu organiser ce cycle. Et j'espère bien sûr que nous nous retrouverons aussi nombreux à l'ensemble des séances. Cela me paraît important donc d'assister à l'ensemble du cycle et d'avoir donc justement ces différents points de vue, ces différents angles d'attaque d'un même problème. Cette année, je précise, puisque nous nous appelons Collège européen de philosophie politique, nous accueillons donc des orateurs de quatre nationalités, de Belgique, de France bien sûr, d'Allemagne et d'Italie. Ce qui est quand même intéressant aussi pour ce point de vue. Enfin, je voudrais mentionner une dernière chose à propos de l'ensemble du cycle. Donc, c'est que les séances du mardi à 18h30 sont des séances qui sont plutôt consacrées au problème de l'écologie et au problème de la croissance écologique, et donc du lien entre le socialisme et la croissance écologique, avec Jérôme Batou la prochaine, donc le 23 février, et Hervé Juvin le mardi 4 mai. Alors voilà pour le cycle, et donc en ce qui concerne notre orateur, il y a 16 ans quand je l'avais invité pour la première fois à Louvain-la-Neuve, pour ce qui est devenu les essais de psychologie contemporaine, je l'avais introduit en disant « on ne présente pas Marcel Gauchet ». Alors aujourd'hui, en 2010, je pense qu'a fortiori, je vais lui céder immédiatement la parole.
Il y a plusieurs manières d'aborder les difficultés politiques du socialisme aujourd'hui en Europe. Raffaele Simonet, que vous aurez l'occasion d'entendre, a montré la fécondité d'une approche culturelle. Pour résumer son analyse en deux mots, elle est très suggestive. La culture de l'individualisme consumériste et médiatique met à mal l'esprit de sacrifice qui constituait le substrat anthropologique de l'adhésion au socialisme. Ce dont je vais vous parler est d'un autre ordre, qui me semble en fait porter plus profond encore. Par crise idéologique du socialisme, en effet, je n'entends pas simplement la crise des idées ou des doctrines, mais la crise de ce que je propose d'appeler le pensable et le croyable socialiste. C'est-à-dire l'effacement des données de la vie de nos sociétés qui conférait sa plausibilité à la perspective d'un avenir socialiste. Une plausibilité assez forte pour avoir pu rendre majoritaire à de certains moments la conviction que l'avènement d'une société socialiste était l'horizon le plus probable du devenir de nos sociétés. Je n'ai pas le temps de justifier cette approche comme il conviendrait, mais j'espère que sa raison d'être s'éclaircira d'elle-même au fil de mon exposé en fonction des facteurs que je serai amené à évoquer, qui me semblent très parlants à cet égard. Je n'ai pas le temps non plus d'entrer dans l'histoire du socialisme européen depuis le XIXe siècle et de montrer comment, en fait, c'est au XIXe siècle que cette figure, comment c'est au XXe siècle, pardon, que cette figure de l'avenir socialiste a conquis sa pleine vraisemblance dans une conjoncture historique bien déterminée. Mais là aussi, cela ressortira assez naturellement de mon propos. L'un des intérêts de cette manière de poser le problème et d'aller au-delà du grand schisme de la division de la famille socialiste en deux branches depuis 1917, même si les racines remontent auparavant, une branche réformiste ou social-démocrate et une branche révolutionnaire ou communiste. Ce partage conflictuel a été la source d'une grave lourde erreur d'appréciation dans la période récente. De la déroute du communisme soviétique, on a conclu un peu vite au triomphe de la social-démocratie. Une grave illusion d'optique, nous commençons à bien nous en apercevoir, confondant la surface et le fond, le court terme et le long terme. Ce que je soutiens, c'est que le pensable et le croyable fondamentaux rendant plausible la perspective d'un avenir socialiste se situe au-delà de ce partage et sont communs aux sociaux-démocrates et aux communistes. Leur conflit, car conflit il y a, porte sur les moyens d'exécution. Pas sur la direction de l'histoire en cours et sur son but final. Ils s'opposent violemment sur la façon de passer au socialisme, pas sur le mouvement de fond qui y conduit et sur la physionomie du terme qu'ils se proposent d'atteindre. C'est ce qui explique la solidarité de destin sur le fond entre les deux branches. En raison de leur radicalité, la branche révolutionnaire ou la version communiste ont été atteintes les premières de décroyance et le plus spectaculairement. Mais après un moment de regain superficiel, la social-démocratie a été rattrapée à son tour insidieusement par ce mouvement de désaffection. Elle garde sa place de grand parti d'alternance dans le jeu démocratique, d'opposition et de contrepoids indispensable aux tendances plutocratiques du capitalisme mondialisé. En un mot, la social-démocratie reste politiquement forte, mais elle est idéologiquement morte, tout autant que le communisme. Elle a perdu le projet de transformation de la société dont elle était porteuse. Voilà ce qu'il s'agit de comprendre. L'ensemble des supports sur lesquels s'étayait ce noyau commun du pensable et du croyable socialiste s'est trouvée remise en question par la marche même de nos sociétés et les conditions nouvelles de l'expérience collective. Depuis, nous pouvons le dater assez précisément, la grande inflexion des années 1970. C'est au niveau de ce substrat social que s'est joué l'entrée en crise idéologique du socialisme, comme je vais essayer de vous le montrer. En quoi consiste ce noyau du pensable et du croyable socialiste? De quoi est-il fait? Sur quoi repose-t-il? J'insiste sur la nécessité de le distinguer de toute doctrine constituée, et spécialement du marxisme, celui-ci fonctionnant plutôt comme une autorité, comme une caution, comme une garantie. Nous avons la science avec nous, que comme un système de pensée exigeant une adhésion idéologique en bonne et due forme. On a affaire en réalité à un assemblage plus ou moins serré d'idéologèmes soutenus, et là est le point important, par des données objectives de la situation historique et du fonctionnement social. Fondamentalement, ce croyable socialiste repose sur deux piliers, pour en donner une description sommaire d'entrée. Premier pilier, l'identification d'un acteur historique privilégié, la classe ouvrière, et d'un facteur de transformation sociale associé à cet acteur, la lutte de classe, dont découle la perspective d'un dépassement de la lutte de classe. Second pilier, l'identification d'une tendance historique au changement de société. Tendance à la propriété collective via la concentration capitaliste, pour commencer. La possibilité du socialisme s'enracine dans l'impératif de l'organisation en vue de l'accroissement de l'efficacité du processus productif. Par où la société actuelle fait signe vers un dépassement révolutionnaire au profit d'une société intégralement organisée et de ce fait tout à la fois rationnel, démocratique et juste. Ce dont il s'agit, c'est d'une vision de l'histoire, des forces qui meuvent l'histoire, et des changements qu'elle promet. Cela n'a nul besoin d'être explicité de manière conceptuelle. Cela peut se résumer à un sentiment diffus. C'est dans cette direction que les choses vont manifestement. Nous allons, c'est le caractère de l'époque actuelle, vers la fin de l'histoire que représenterait la société en possession d'elle-même grâce au dépassement de la propriété privée et du salariat, grâce au dépassement de la division entre le pouvoir et la société, et grâce à la science de la société. Ce ne sont pas des idées en l'air, j'y insiste, c'est ce que paraît suggérer comme évolution la situation historique présente. Détaillons un peu plus. Vous comprendrez qu'étant donné l'ampleur de la matière que je dois embrasser, mon propos ressemblera plus à un programme de travail qu'à une analyse complète et en bonne et due forme. Premier pilier donc, la centralité de la classe ouvrière ou du prolétariat. Si c'est là un acteur privilégié, c'est en raison de sa place objective dans la vie économique et sociale. C'est la classe des producteurs et des travailleurs sur laquelle repose le progrès de la richesse collective. Or, cette classe subit une injustice structurelle dans la société capitaliste. Elle est victime d'une exploitation économique et d'une domination sociale qui se résume dans sa dépendance salariale. Exploitation et domination qui justifie, pour commencer, une condamnation morale de la société capitaliste et le ralliement pour des motifs éthiques à la cause prolétarienne, y compris de la part de gens qui n'en sont pas directement victimes. Mais ce qui fait de la classe ouvrière un acteur historique privilégié, c'est qu'elle est en même temps porteuse d'une promesse d'émancipation. Elle se distingue par sa conscience de classe, qui, au-delà des luttes revendicatives au jour le jour, en font un acteur révolutionnaire, porteur du projet d'une société radicalement différente. Il se trouve que c'est la classe la plus nombreuse, qui a vocation de surcroît à rassembler autour d'elle tous ceux qui sont lésés à un titre ou à un autre par l'évolution capitaliste, la paysannerie, les employés, en un mot, le peuple. D'où la plausibilité d'une victoire électorale construite sur des coalitions de classes, y compris dans le cadre bourgeois. C'est à partir de là que les voix divergent entre ceux qui se satisfont de cette voie démocratique vers le pouvoir et ceux qui jugent que même dans ce scénario, des mesures plus radicales sont indispensables pour opérer la rupture révolutionnaire et l'expropriation de la classe bourgeoise. Mais jusqu'à ce point, ça n'empêche pas de cheminer ensemble. Second pilier, la conviction que l'avenir est au socialisme, que la société actuelle ne peut pas durer telle qu'elle est porteuse d'une transformation révolutionnaire destinée à engendrer une société autre. De nouveau, on peut discuter sur le mode d'effectuation de cette révolution. On peut la voir comme graduelle, on peut la voir comme nécessairement associée à une rupture violente, mais l'important dans tous les cas est ce dépassement du présent inscrit dans les données mêmes du présent. Pour bien en prendre la mesure, il faut subdiviser cette conviction globale. Elle comporte au moins quatre éléments étroitement liés. En premier lieu, elle repose sur un moyen consensuel, la propriété collective. Le mal capitaliste, c'est la propriété privée et donc le règne des intérêts particuliers. Le remède, c'est l'appropriation collective des moyens de production qui autorisera la démocratie réelle avec le règne authentique de l'intérêt général. Propriété générale ou propriété des seuls secteurs clés, on discute là de nouveau depuis le départ, mais ce débat sur le périmètre de l'appropriation collective ne touche pas au principe lui-même. Point crucial, cette perspective n'est pas seulement de l'ordre du souhaitable, et c'est là que le socialisme qui se veut scientifique se sépare du socialisme dit utopique. Cette perspective est portée par l'évolution même des sociétés capitalistes. vous cite une phrase que j'ai prise au hasard dans une littérature surabondante. La structure collectiviste mûrit d'ores et déjà au sein de l'ordre capitaliste. L'activité économique est de plus en plus coordonnée, la propriété de plus en plus collective. Le processus de concentration met fin de lui-même, sous le capitalisme, à la petite propriété individuelle des moyens de production. Il suffit, au fond, de faire un pas de plus pour aboutir à la propriété collective en bonne et due forme. Sur cette évolution interne du capitalisme, j'en dis un mot, tous les bons observateurs convergent. Dans l'après-guerre, par exemple, l'illustration la plus illustre de cette convergence sera donnée par un adversaire idéologique du socialisme et l'un des plus grands économistes de son temps, Joseph Schumpeter, qui explique, en antisocialiste qu'il est, comment il considère néanmoins comme inéluctable ou très probable l'avènement d'une société socialiste. Je le cite, « Il existe une tendance à l'autodestruction inhérente au système capitaliste et une tendance qui est en même temps une tendance à engendrer une civilisation socialiste. » J'insiste sur cette donnée afin de souligner le rôle essentiel de ce facteur de plausibilité dans le champ idéologique. Les croyances idéologiques ne sont pas des convictions de hasard, elles s'enracinent dans le mouvement social et l'évolution historique. En deuxième lieu, cette concentration capitaliste obéit à un critère capitaliste, la recherche de l'efficacité économique maximale. Là est le deuxième élément de l'accréditation socialiste relatif aux outils de la gestion collective. Le socialisme apparaît comme l'avenir le plus probable parce qu'il a à sa disposition les outils pratico-intellectuels les plus performants pour développer la production et de manière générale pour démultiplier l'efficacité sociale. Ces outils ont nom organisation, coordination, planification, prévision. Ces outils mêmes que le capitalisme est amené à introduire de manière fragmentaire ou embryonnaire et que le socialisme se propose de systématiser afin de les porter à leur plein rendement. La grande entreprise l'emporte parce que sa taille permet des économies d'échelle et une mise en œuvre plus rationnelle de ses moyens. C'est pourquoi l'accroissement de sa taille n'a pas de cesse. Cette extension lui permet de développer un pilotage prévisionnel à longue portée par rapport à l'entrepreneur manchestérien rivé sur les fluctuations du marché. Cette planification que les entreprises développent en interne, les États bourgeois eux-mêmes l'ont adoptée et en ont fait, après 1945, dans des formules nationales variables, un vecteur décisif de l'amélioration de l'efficacité collective. Il ne s'agit pas là que d'un outil de gestion vulgaire. Les enjeux dont il est investi sont énormes, au-delà de son aspect purement opérationnel. Il faut dégager les présupposés sur lesquels cet outil planificateur repose. l'avenir est prévisible, toute une série de disciplines travaillent à la mise en forme de cette prévisibilité, on peut se rendre maître de l'évolution sociale jusque-là subie de manière anarchique ou chaotique, l'histoire est gouvernable. Elle est d'ailleurs la matière véritable d'un gouvernement digne de ce nom qui prendrait en charge l'avenir collectif. Le socialisme n'est autre chose que l'exploitation complète de ces virtualités en gestation. Troisième composante ici, toutes ces données, propriété collective, gestion planifiée, etc., convergent naturellement vers un instrument central et fondamental, à savoir l'État. Troisième donnée à considérer. Alors, sur ce chapitre, le socialisme européen du XXe siècle, toute branche confondue, s'est sensiblement éloigné de Marx, voire lui a carrément tourné le dos. Car pour Marx, le socialisme, c'était l'abolition de l'État au profit de l'association des producteurs. Pour le socialisme du XXe siècle, le socialisme, et plus que jamais après 1945 et les grandes réformes qui ont engendré l'État protecteur, l'État organisateur, l'État modernisateur et planificateur, le socialisme, c'est l'État. Ce nouvel État est un foyer d'innovation qui paraît en avance sur le reste de la société et au regard duquel l'entreprise capitaliste, y compris la plus moderne, fait figure de bricolage artisanal. Dans cette nouvelle définition qu'il reçoit de ses structures et de ses fonctions, l'État apparaît comme le dépositaire de trois valeurs collectives primordiales. La rationalité, le désintéressement, le souci du long terme. Une rationalité dont le désintéressement garantit l'exercice, il n'est pas entravé par les intérêts particuliers. L'État est au service de la collectivité. Il ne fait pas que garantir la continuité et l'identité collective, il est un agent actif et productif de l'avenir, y compris éloigné, parce que ses moyens lui permettent d'aller voir loin en avant. C'est ce qui en fait l'instrument désigné du socialisme. Le socialisme fait figure sous cet angle aussi d'accomplissement des virtualités inscrites dans cet appareil. Il faut dire quelques mots enfin, en quatrième et dernier lieu, du but proprement dit, que ces moyens, ces instruments, ces produits sont destinés à engendrer. Quelques mots, donc, de cette nouvelle forme de société en gestation dans la société actuelle qui méritera le nom de société socialiste. Le but est double. C'est d'abord l'unité collective et c'est ensuite la société consciente d'elle-même. La société fonctionnant en connaissance de cause. L'unité collective a pour socle précisément la propriété collective, donc l'élimination de la division sociale primordiale, celle des propriétaires et des non-propriétaires, les prolétaires. La propriété collective ouvre ainsi la voie à l'abolition des classes, que l'on conçoive celle-ci comme graduelle ou comme rapide. L'unité collective n'est pas seulement sociale, elle est également politique. Sous cet angle, elle est synonyme de démocratie véritable. Nous retrouvons sous cet angle la question de l'État et nous pouvons deviner au passage pourquoi la distance prise avec Marx ne chiffonnait pas beaucoup les consciences socialistes. État ou pas État, dans leur esprit, cela revenait au même dès lors que cet État, via la propriété collective, pouvait être l'expression de la collectivité tout entière. L'important, c'est l'intégration de tous et l'impartialité arbitrale permettant la prise en compte de l'ensemble des intérêts et des points de vue. La propriété collective est la clé de la conjonction de la société et du gouvernement comme condition d'une démocratie authentique. Au-delà de l'unité collective, la société socialiste, c'est la société qui se connaît. Et là aussi, il ne s'agit pas d'une idée suspendue en l'air, d'un fantasme plus ou moins arbitraire, mais d'une perspective qui s'appuie sur des faits et des faits majeurs. Pour le résumer d'une phrase, la montée des savoirs au sein du fonctionnement de nos collectivités. À cet égard, le socialisme fait cause commune, en un certain sens, avec l'essor des sciences sociales qui lui sont, au demeurant, d'un point de vue historique, parfaitement parallèles. Dans cette espérance de la société consciente, il y a plusieurs versions distinctes et concurrentes de l'idée. On peut en distinguer au moins trois. Une version technocratique du gouvernement rationnel appuyé sur la compétence d'une élite de service. Une version allant dans les années 50 et 60, par exemple, vers l'idée d'une société programmée, à laquelle la cybernétique, en faveur à l'époque, apporte un concours puissant. Mais l'idée admet aussi bien une version philosophique, ce qui est celle en fait du socialisme classique, mettant l'accent sur la figure du savoir de soi, de la société, aboutit dans la connaissance d'elle-même. L'idée admet enfin une version mystique. Il ne faut pas craindre d'employer le mot. Une version mystique qui a trouvé dans les années 50 et 60, un interprète, bien oublié aujourd'hui, mais dont l'écho prodigieux qu'il a rencontré alors est hautement significatif, le père Teilhard de Chardin, qu'on ne lit plus guère, mais que je ne saurais trop vous engager à relire avec nos yeux d'aujourd'hui. C'est, de ce point de vue, l'un des vrais idéologues, au noble sens du mot, de l'après-guerre. Teilhard est le penseur par excellence de la communion humaine, de la convergence évolutive de l'espèce humaine dans une noosphère où se rassembleraient cosmogenèse, anthropogenèse et christogenèse. Voilà un tableau qui, même sommaire, me semble assez complet, même s'il est inévitablement schématique. Voilà les données qui assuraient la vraisemblance de la vision socialiste qui ont assuré la vraisemblance de l'idée socialiste au XXe siècle, tant dans sa branche social-démocrate que dans sa branche communiste totalitaire. On voit là combien cette vision socialiste, pensable et se croyable, collait au mouvement même des sociétés européennes. Une fois qu'on a dressé ce tableau, on est en mesure, en position, d'apprécier ce que veut dire crise idéologique du socialisme. Un socialisme est politiquement fort et idéologiquement très faible. Ce sont deux scènes décalées. Il suffit de les énoncer pour voir que toutes ces composantes ont été ébranlées, si ce n'est anéanties. Il n'est aucune d'entre elles qui n'ait été remise en question ou disqualifiée. Les deux piliers qui soutenaient la conviction socialiste se sont écroulés, et l'ensemble des éléments dont étaient faites ces colonnes du temple ont été sévèrement érodés à tout le monde. Nous allons les passer en revue méthodiquement les uns après les autres, même si c'est toujours au triple galop, parce que c'est la meilleure façon d'apprécier l'ampleur de la rupture qui se joue à partir du milieu des années 1970. Pour commencer, notre premier pilier, la classe ouvrière a cessé de faire figure d'acteur historique privilégié. Mais c'est beaucoup de choses qui vont avec ce constat. Quatre choses au moins. La notion de prolétariat a perdu sa signification. La conscience de classe a cessé d'opérer. Les masses se sont dissoutes, vous n'avez que ce mot dans la vie de nos sociétés, et elles ont apparemment disparu, en tout cas elles ne se présentent plus à l'appel. Troisièmement, le travail et la production ont cessé d'être tenus pour les foyers majeurs de l'existence collective. Quatrièmement, la signification du salariat s'est profondément transformée. Explicitons un petit peu, trop peu, mais nous pourrons en discuter par après, ces différentes données. La protection sociale d'un côté, la croissance économique de l'autre côté ont engendré ce qu'on peut résumer sous l'expression de déprolétarisation. Une déprolétarisation matérielle des milieux populaires qui les a arrachés à leur insécurité séculaire et leur a ouvert un accès à la consommation, aux loisirs, etc. À quoi il faut ajouter une déprolétarisation symbolique grâce à l'intégration politique des classes ouvrières et de leurs organisations, devenues des partenaires à part entière dans le jeu collectif. Contre le refoulement où elles ont été longtemps tenues. La conscience de classe s'est littéralement évaporée. Elle a cessé d'être un facteur agissant. En même temps que la structure de classe objective de nos sociétés s'est brouillée jusqu'à devenir indéchiffrable. En théorie, la situation objective de classe détermine une conscience subjective de la classe ouvrière et de sa mission historique, la classe universelle, je n'y reviens pas. En pratique, c'est tout le problème du mouvement ouvrier à partir du moment où il s'organise véritablement, à compter des années 1880, on s'aperçoit qu'il y a un net décalage entre la situation objective de classe et la conscience subjective de classe. C'est précisément dans cet intervalle que va s'engouffrer le léninisme, qui est une réponse à ce problème. La classe ouvrière est spontanément très unioniste, il faut lui apporter de l'extérieur la conscience subjective de sa mission, qui ne peut être le fait que d'une minorité organisée dans un parti révolutionnaire d'avant-garde. Dans les faits, car cette conscience de classe en même temps a existé, elle a puissamment existé, elle a été un levier très lourd de la vie politique des sociétés européennes depuis le XIXe siècle, dans les faits, je crois qu'elle doit s'interpréter non comme une conscience de la situation économique du prolétariat, mais comme une protestation contre la structure hiérarchique qui restait sous-jacente au fonctionnement des sociétés européennes de par l'héritage de l'Ancien Régime. Le mouvement ouvrier est le fer de lance de la lutte contre l'Ancien Régime qui se prolonge dans la société dite bourgeoise du XIXe siècle. C'est à la lumière d'un fait comme celui-là qu'on peut comprendre cette chose très surprenante, qui est l'absence de socialisme aux États-Unis, alors pourtant qu'on a aux États-Unis un mouvement ouvrier très puissant et très combatif, mais qui ne débouche pas sur la perspective idéologique d'un socialisme. On comprend à partir de là que cet objectif, une fois atteint, la dissolution de ce qui demeurait de structuration hiérarchique dans les sociétés européennes, la conscience de classe prolétarienne s'efface. Une fois l'objectif atteint, les classes ouvrières cessent de se poser comme un acteur politique séparé, porteur d'un projet spécifique. Par un mouvement qui s'est effectué par dilution progressive. Vous noterez que la notion même de mouvement ouvrier ne veut aujourd'hui à peu près plus rien dire. On n'en observe la disparition dans les années 1980 de manière différenciée un peu partout en Europe. Ce n'est pas tant la réalité de la structure objective de classe qui a bougé que la signification que les acteurs attribuaient à cette stratification. Les masses, cette vision d'elle-même qu'une partie de la société se donnait pour souligner son poids inventif dans l'histoire, se sont dissoutes en autant d'individualité. Les masses ne font plus l'histoire. L'antagonisme de classe, auquel on a consacré des bibliothèques entières, on pourra bientôt en faire un mausolée, a cessé d'être la clé de lecture majeure du fonctionnement social. Parallèlement, c'est le troisième élément que j'évoquais à ce titre, la centralité de la production et du travail productif dans le fonctionnement collectif s'est diluée. Le socialisme, c'était le triomphe des producteurs aux dépens des différentes fonctions parasitaires vivant de l'exploitation du travail. Le socialisme, c'était la perspective de la récupération du fruit de son travail par le travailleur contre l'aliénation-exploitation par le capital. Le programme, c'était, autrement dit, de remettre le monde à l'endroit en consacrant la place de la fonction productive dans la société. Or, l'un des effets cruciaux des changements techniques et économiques qui s'engagent dans les années 1970 a été de dévaluer cette position prééminente de la production au profit d'autres activités, dans deux directions. D'une part, d'autres activités dans l'entreprise même, du côté de la conception, en amont de la production, du côté de la commercialisation, en aval de la production. Les sociologues de l'entreprise ont mille fois décrit cette évolution, recherche, développement et prime à l'innovation d'un côté, marketing, publicité, etc., vente de l'autre côté. Mais, outre ces déplacements internes de l'économie, la production s'est trouvée marginalisée au profit de la dimension financière et capitalistique. Nous avons un excellent symptôme de cette transformation avec le phénomène d'opinion qui a entouré un mot d'ordre magique des années 1970, autogestion. Il a flambé aussi vite qu'il a disparu. Et pourquoi ? Parce que l'autogestion, c'était la gestion de l'entreprise par les producteurs. Mais le problème se pose tout à fait autrement quand l'entreprise, c'est des entrepreneurs, nous allons y venir, des concepteurs, la recherche, ça ne s'autogère pas, et des marchands. Parce que ça non plus, c'est les clients qui comptent dans la vente, c'est pas l'autogestion en interne du fonctionnement de l'entreprise. J'en viens au quatrième et dernier élément sur ce premier pilier, le rôle de la classe ouvrière. de façon plus diffuse, plus latente, s'est opérée une reconsidération du salariat, de la nature du salariat et de sa signification. L'objectif premier, vous pouvez prendre les chartes de tous les grands syndicats européens au début du XXe siècle, c'est l'abolition du salariat. Pourquoi ? Parce que le salariat, c'est une nouvelle figure de l'exploitation économique et de la domination politique après l'esclavage antique et le servage médiéval. L'objectif du mouvement ouvrier, c'est d'abord de surmonter le salariat, c'est-à-dire la séparation du travail productif et des moyens de production. À partir de 1945, des réformes sociales considérables, de l'évolution économique, les termes du problème ont insensiblement évolué, jusqu'à rendre aujourd'hui, pour des oreilles de jeunes gens actuels, le mot d'ordre d'abolition du salariat surréaliste. On ne sait pas de quoi on parle quand on évoque ça. Le salariat reconstruit, protégé, défini juridiquement par toute une série de clauses, en est venu à apparaître comme un progrès plutôt que comme une malédiction. Au final, par une évolution très compliquée mais très intéressante à reconstituer, le salariat apparaît comme en mesure d'assurer une sorte d'équilibre optimal entre la socialisation du travail et son individualisation. Au travers du salariat, on participe à la vie commune et au travail général de la société, tout en gardant son indépendance personnelle. Le salariat est devenu, en fait, le cadre normal et apprécié, on peut l'établir, du travail. Si socialisme il doit y avoir, ce sera non pas un socialisme fondé sur l'abolition du salariat, mais un socialisme fondé sur la salarisation générale de la société. Faisons des traders, des salariés comme les autres. Un exemple d'actualité. J'en viens au second volet, ou au second pilier que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les tendances actuelles faisant signe vers un avenir socialiste. Ce deuxième pilier de la construction qui faisait du socialisme une perspective tout à fait plausible n'a pas été moins affecté dans l'ensemble de ses composantes telles que je vous les présentais schématiquement il y a un instant. Premièrement, la marche vers la socialisation croissante de la production par la concentration capitaliste s'est interrompue. Jusque vers 1975, la tendance à la concentration capitaliste se poursuit tout en se modifiant d'une manière à laquelle, sur l'instant, on ne prête pas assez d'attention. Si l'on y ajoute la dispersion des actionnariats, qui assure une confortable indépendance au management salarié qui gouverne les entreprises, et au rôle, dans le contexte extraordinairement important, de l'intervention des États, on a l'impression que cette évolution vers une socialisation naturelle de la production s'effectue dans le cadre même du capitalisme. Cela va recevoir de la part des économistes marxistes de l'époque une dénomination très parlante aujourd'hui, après coup, le capitalisme monopoliste d'État. Vous voyez ce que signifie la notion. Le capitalisme, dans son mouvement de concentration, va vers le monopole dans chaque branche de production, l'oligopole au pire, de telle sorte qu'il facilite d'avance la socialisation et le passage à une propriété collective. Il suffit, dans chaque domaine clé, de s'emparer des leviers de commande de ces monopoles qui dominent chaque secteur de la vie économique pour aboutir à un pilotage collectif, à une société pour de bon organisée. Or, c'est la tendance se renverse à la faveur de la crise qui se déclenche dans le sillage du choc pétrolier de l'automne 1973. Il se produit une mutation structurelle de l'organisation capitaliste qui prend d'ailleurs tout le monde à contre-pied, les capitalistes pour commencer, passablement déconcertés par ce qui se passe. On assiste à une inversion de logique. En fonction de deux tendances lourdes qui étaient là depuis 1945, qui avaient présidé à la haute croissance, mais dont on n'avait pas vu combien elles étaient en contradiction avec cette évolution vers la concentration. Le capitalisme monopoliste d'État va, pour autant que la notion soit adéquate, va voler en éclats. Ces deux tendances lourdes, c'est d'une part le poids de la recherche-développement dans le mécanisme économique et qui débouche sur une économie de l'innovation, où le facteur prioritaire est moins les économies d'échelle de la production de masse que la mise sur le marché incessante de nouveaux produits. Deuxième tendance qui vient de loin, là aussi, mais qui va bouleverser le paysage, la croissance continue des échanges internationaux, qui fait de toutes les économies des économies travaillées par un mouvement de déconcentration concurrentielle des marchés nationaux, même si par ailleurs, à l'échelle mondiale, la concentration peut se poursuivre, à l'échelle locale, on a affaire à une démonopolisation au rebours de ce qu'on observait dans chaque espace national jusque-là. Cette évolution se traduit par une relance spectaculaire de la fonction d'entrepreneur. C'était une notion qu'on avait quasiment oubliée, qui faisait figure de vieillerie renvoyant au capitalisme manchestérien de la grande époque britannique, du capitalisme britannique. De la même façon, l'entreprise et les conditions de son efficacité sont soumises à une révision drastique. Il existe un très bon livre sur cette question, descriptivement parlant, d'un économiste libéral par ailleurs, mais qui est un très bon observateur et qui pointe très bien les phénomènes, Jean-Jacques Rosa. Son livre s'appelle « Le second XXe siècle ». Et il explique précisément, on a même des chiffres, en 1975, je ne prends pas cette date au hasard, alors que jusque-là, la taille moyenne des entreprises croît, l'inversion de tendance se produit, la taille moyenne des entreprises se met à décroître. On retourne vers un univers marqué par l'atomicité, comme disent les économistes, des acteurs de marché. Les petites organisations tendent à se substituer aux grandes, y compris dans la manière dont on conçoit l'organisation interne des entreprises, qui peuvent être gigantesques, mais dont toutes les unités sont réorganisées autour de centres de profit autonomes qui fonctionnent en réseau au lieu d'obéir à la pyramide hiérarchique qui était le modèle de l'intégration verticale de l'ère des organisateurs, comme disait Burnham. C'est dans ce contexte, évidemment, qu'on retrouve la force des marchés et le raisonnement de l'acteur individuel. Pour résumer la chose d'un mot, sur ce point comme sur les autres, vous voyez qu'elle appellerait de longs développements pour aboutir à une description méthodique, mais on mesure, je crois, à partir de ces quelques données, la pente à la socialisation, qui semblait jusque-là le mainstream de l'évolution de nos sociétés, s'est inversée. Deuxième facteur, toujours sur ce chapitre de la vision de l'avenir socialiste, l'existence des outils intellectuels et organisationnels autorisant la maîtrise du devenir, le gouvernement de l'histoire, est remise en question. Il faudrait là retracer la montée de cette intégration de la dimension du futur dans le mécanisme de nos sociétés, surtout après 1945. Les années 45-1975 auront été véritablement l'âge d'or du futur. Et d'un futur dont on pense qu'on a les moyens de l'anticiper et de l'organiser. Toutes choses qui vont puissamment dans le sens de l'accréditation d'un avenir socialiste. Or, là aussi, la crise consécutive au choc pétrolier de la fin 73 va apporter un démenti cinglant à cette foi dans la maîtrise du futur. En quelques années, l'ensemble de ces données se décompose. La prévision technique est déjouée à tous les niveaux. Les années 70, c'est le moment, chaque pays a ses histoires sur ce sujet, du démenti aux grands projets industriels concoctés dans le cadre des politiques industrielles qui avaient alors la faveur. Il faut dire que les Français, sur ce chapitre, ont dépassé tout le monde par un nombre de fiascos particulièrement retentissants. Mais je prends un exemple neutre. Sur le terrain où le phénomène est le plus parlant, l'informatique. Au début des années 1970, le PDG d'IBM, la firme par excellence associée au nom de l'ordinateur dans ces années, fait une déclaration fracassante. Ce PDG, qui d'ailleurs expliquait pour les affaires courantes, allez voir mes adjoints, moi je ne travaille qu'à horizon de 20 ans. Toujours dans le cadre de cette vision anticipatrice, il fait une prédiction. En l'an 2000, il y aura 4 ou 5 ordinateurs de par le monde qui suffiront, par leur taille gigantesque et la connexion générale qu'ils autoriseront, à toutes les opérations. Où tout le monde crie au Big Brother qu'IBM nous prépare, naturellement, ben ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Parce que dès la fin des années 1970, apparaît une autre version de ce que va vouloir dire l'informatisation de la société. Ce n'est pas l'intégration autour d'ordinateurs géants, c'est la multiplication d'ordinateurs personnels, les PC, qui vont créer une société de réseau aux antipodes de la grande pyramide intégrée dont rêvait le patron d'IBM. De la même manière, Là, il faut, c'est tout le débat des années 1970, tous les outils de gestion collective qui permettaient, les outils qu'on appelle généralement keynésiens à tort ou à raison, qui permettaient de réguler la conjoncture économique des failles, hein, en engendrant ce qu'on va appeler la stagflation. Le chômage s'accroît, la stagnation économique se perdue et néanmoins l'inflation s'accroît très rapidement. Ce dont on n'a pas la théorie et sur quoi on est impuissant. Mais d'une manière plus générale, en quelques années, entre 1975 et 1980, on voit s'effacer littéralement cette figurabilité de l'avenir qui était l'une des convictions les mieux établies des années 60. Elle a trouvé sa expression cinématographique la plus illustre dans le film de Kubrick qui s'appelle 2001, l'Odyssée de l'espace. Vous pouvez voir que 2001, c'est pas du tout pensé comme ce film le présente. Un film réalisé avec l'aide de la NASA, qui a été le concepteur sous-jacent de toute l'imagerie présentée par Kubrick. Toutes les figures qui permettaient de se représenter l'avenir depuis l'entrée dans le futurisme social au début du XIXe siècle s'évanouissent. Plus de tradition, il n'y a plus de passé idéal sur lequel on pourrait se replier. Plus de révolution, il n'y a pas de discontinuité radicale en direction de l'avenir dont on pourrait s'assurer, mais plus non plus de progrès libéral entre les deux. Même cette image modérée, qui tant bien que mal fournissait une boussole, paraît ne plus répondre à ce besoin de projection dans l'avenir qui paraissait sur le point d'acquérir sa valeur de discipline scientifique. Cette incertitude sur l'avenir va être, soit dit au passage, le facteur clé du retour des marchés. Car le marché s'impose en tant que technique indépassable de gestion de l'incertitude, à défaut d'autres instruments pour percer le mystère du futur. J'en arrive à la fois dans les capacités de l'État, mon troisième élément ici. Cet État au service de la société désintéressée et rationnelle, qui paraissait l'outil tout désigné pour un socialisme en émergence, arrive partout sur la sellette. La formule qui le résumera commodément est celle qui permettra à Reagan de remporter les élections présidentielles de 1980 et d'initier une inflexion majeure du pilotage des économies. Sa formule choc dans sa campagne contre Carter sera « Le gouvernement n'est pas la solution, le gouvernement est le problème ». Je crois que cette formule va devenir la philosophie dominante de l'ensemble des élites politiques dans le monde non seulement européen mais occidental. Long terme, rationalité, désintéressement, chacun de ces points arrive à sa façon sur la sellette. Je ne reviens pas sur les capacités d'anticipation de l'État qui sont mises à mal et profondément délégitimées par le changement de direction des années 1970. Toute l'économie de la réglementation, les économies administrées à base de contrôle des prix, des salaires, négociations collectives, sont remises en question pour leurs effets pervers, une notion qui devient centrale précisément dans ce contexte de remise en question de la rationalité gouvernementale. Il ne suffit pas de prendre des mesures, encore faut-il voir ce qu'elles deviennent quand elles sont prises dans le processus collectif et que les acteurs anticipent sur ce que va produire l'action de l'État pour en déjouer les effets. Il n'y a pas que la rationalité qui est mise en doute, il y a aussi le désintéressement. Un désintéressement qui paraissait garanti par le fait que l'État était au-dessus des intérêts privés inscrits dans la propriété. Eh bien, après tout, on s'aperçoit, et à une grande échelle, que les agents publics ont eux aussi leurs intérêts particuliers qui ne sont pas nécessairement au service du public. La réglementation économique, l'économie administrée, peuvent, sans le vouloir, créer des intérêts particuliers, des niches mettant à l'abri des corporatismes par la réglementation de tel ou tel secteur économique, etc., etc. Aucune des vertus qu'on avait cru pouvoir prêté à l'État, et surtout à cet État rénové, démocratisé, réorganisé d'après 1945, n'aura résisté à l'expérience et à l'examen. L'État n'est pas nécessairement, comme on avait pu le penser un moment, le garant d'une gestion efficace, parce que porté par le souci du long terme, parce que contrôlé par la rationalité indépendante des agents et parce que inspirée par la préoccupation exclusive du bien de tous. Avec l'État, le pensable et le croyable socialiste ont perdu leur levier majeur, instrumentalement parlant. Quatrième et dernier point, je vais aller très vite sur ce chapitre, par rapport à son second pilier, la figure du but proprement dit, de cet avenir radicalement différent du présent, qui serait l'aboutissement de l'histoire dans une société devenue consciente d'elle-même. Cette figure est tout autant atteinte dans ses constituants fondamentaux. Pour commencer, premier constituant révoqué en doute, la possibilité et la plausibilité, ce sont deux choses différentes, de la marche vers l'unité collective par la propriété collective. On pourrait évoquer ici l'image repoussoire de l'Union soviétique. Je n'en ai pas parlé, mais qui a tout de même joué son rôle dans cette affaire. Elle rend obvie le fait que la propriété collective n'est pas la garantie de la suppression de la division sociale. Celle-ci ne se pose plus entre bourgeois détenteurs des moyens de production et prolétaires, mais elle est tout autant présente, ou davantage, entre les maîtres de l'État, la nomenclatura qui contrôle le pouvoir que le reste de la population. Mais au-delà, c'est une évolution de nos propres sociétés qui va rendre cette perspective à la fois implausible et non désirable. Nos sociétés ne vont pas d'elles-mêmes vers la propriété collective, elles vont encore moins vers la réunion du pouvoir et de la société, elles vont vers davantage de dissociation entre la société civile, un mot fétiche qui s'introduit dans les années 1970 très significativement, la dissociation entre la société civile et l'État. Et cette évolution, qui plus est somme toute souhaitable. D'abord parce que politiquement, elle est la garantie des libertés individuelles et la meilleure qui soit. Ensuite, socialement, parce qu'elle apparaît comme la condition du dynamisme et de l'innovation collective. Pas d'innovation, pas d'inventivité collective sans indépendance de la société par rapport à l'État. La figure d'une société consciente qui paraissait liée à l'avancée de la connaissance même de la société se trouve à son tour mise en doute. D'abord, sur le plan tout ce qu'il y a de pratique, à l'expérience, en réalité, la pénétration de la connaissance dans la gestion collective est plutôt source de dépossession et d'opacité. À l'expérience, l'arrivée des experts, comme on se met à les appeler dans tous les secteurs de la vie sociale, n'est pas une garantie, n'apparaît pas aux acteurs comme une garantie d'une meilleure compréhension partagée du fonctionnement des institutions auxquelles ils appartiennent. Ils y voient au contraire une extériorisation qui représente une haute aliénation. L'émancipation par le savoir vient en doute avec la mesure de l'opacité et de la fragmentation supplémentaire que la place des savoirs sociaux introduit dans le mécanisme collectif. Mais il y a là, derrière, une donnée plus cruciale encore, qui se joue sur un terrain spéculatif ou philosophique, la réflexivité croissante des activités sociales à laquelle on peut bien conclure, sur le base à la fois de l'élévation du niveau d'instruction et de la mobilisation des connaissances dans le fonctionnement de la société, ne fait pas signe vers une quelconque fin de l'histoire dans la réunion avec soi et la transparence à soi. C'est le contraire. Chaque gain de réflexivité fonctionne en réalité comme une relance du processus historique vers de nouveaux horizons au lieu de nous rapprocher d'un terme où l'on saurait tout. Chaque nouvelle avancée vers le savoir ouvre la place à un non-savoir appelant à son tour la réduction dans une course indéfinie. En fait, on peut parler, pour des raisons profondes, dans cette période, d'une fin de l'histoire finie. Il devient impossible, compte tenu de ce qu'est l'expérience historique, de penser l'histoire comme destinée à converger vers un terme. Et tel était bien la place que revendiquait l'idée socialiste dans ses formulations communément acceptées en Europe depuis le XIXe siècle. Quatrième et dernier point, la figure du but proprement dit, de cet avenir radicalement différent du présent qui serait l'aboutissement conscient de la société en possession d'elle-même. Le point culminant, cette image de la communion humaine que j'associais au nom, parce qu'il est le plus parlant, de Teilhard de Chardin. C'est la communion humaine, c'est le contenu ultime de l'idée socialiste. La communion humaine, c'est-à-dire le dépassement de la séparation individuelle jugée comme l'aliénation bourgeoise par excellence. Bourgeoise ou petite bourgeoise, c'est pire encore, au moins vrai bourgeois, on démérite. La communion humaine, c'est la figure de la conjonction de l'individuel et du collectif. Ultime espérance socialiste. C'est une dimension qui n'était pas forcément mise très en avant, surtout dans le langage violemment laïque, matérialiste, qui était souvent celui du mouvement ouvrier et socialiste. Il n'empêche que cette figure peut invoquer, et cela se lit très bien quand les gens parlent personnellement de leurs itinéraires et de leurs convictions, cette dimension représentait à coup sûr l'un des ressorts mobilisateurs les plus puissants de l'idée socialiste. Qui engage un point de fond, c'est-à-dire tout ce que le socialisme européen, tout matérialiste, anticlérical qu'il était, devait à la religion chrétienne. Ce qui est à soi seul un vaste dossier. Eh bien, on peut dire que cette perspective de la communion humaine, de l'union des êtres en esprit et dans ce que décrit Teilhard encore, cette perspective s'est défaite en même temps que s'effacer la figure de la fin de l'histoire. Elle ne veut à peu près plus rien dire pour nous, en ce monde. Elle peut parler à certains comme image de l'autre monde, mais par rapport à l'histoire et à l'expérience historique et sociale, elle est devenue impensable, inimaginable, incroyable. Elle s'est écroulée avec les derniers vestiges de l'identification de l'individuel au collectif. On peut parler à ce propos d'une étape finale de la déthéologisation de l'histoire, laquelle a eu un effet massif d'individualisation. On touche là l'une des racines les plus profondes de ce nouvel individualisme que nous avons vu déferler depuis les mêmes années 1970. Cette désidentification de l'individuel au collectif a entraîné une extériorisation des êtres les uns par rapport aux autres et une dissociation de l'individuel et du collectif aux conséquences incalculable, qui fait, je rejoins là ce dont parle Raffaele Simone, qui fait que le langage socialiste, c'est-à-dire le langage de la réunion de l'individuel et du collectif, est devenu spontanément étranger aux individus contemporains. Il ne leur dit rien. Nous, rien n'est plus étranger aux perspectives spontanées de l'individu d'aujourd'hui, dans son type idéal en tout cas, que l'horizon selon lequel nous serions destinés à ne faire qu'un. Voilà pour ce parcours au triple galop, mais qui néanmoins, j'espère, à valeur suggestive, à défaut de valeur démonstrative, comme vous voyez, par où qu'on prenne le problème, le résultat de l'analyse est le même. Il ne reste rien de ce qu'a représenté l'idée socialiste. Tout est à refaire. Nous nous retrouvons comme dans les années 1840, quand cette idée, en fonction du choc de la révolution industrielle et de l'apparition des prolétariats salariés, émerge. Car, je tiens aussi à le souligner, ce constat ravageur ne signifie rien quant à l'objectif. L'objectif d'une société tout à la fois plus au fait de son existence et mieux maîtrisée, d'une société plus juste en même temps que plus démocratique, cet objectif, dans l'abstrait, conserve, lui, toute sa pertinence. Et à beaucoup d'égards, prenons tout simplement le défi écologique qui est devant nous, nous voyons bien comment l'exigence d'une plus grande maîtrise collective est non seulement de l'ordre d'une hypothèse nécessaire pour l'esprit, mais d'une urgence pratique incontournable. L'objectif garde toute sa pertinence, mais il faut, pour y atteindre, d'autres outils. Il faut renoncer à l'idée que la tendance spontanée de nos sociétés nous mène vers cet horizon. Il nous faut une autre interprétation de l'histoire pour comprendre la situation qui est la nôtre, que cet économicisme automatique qui était supposé nous amener vers le dépassement des contradictions de nos sociétés. Il n'y a pas de dépassement automatique des contradictions. Le dépassement des contradictions ne peut être que volontaire et difficile. Il nous faut une autre analyse de ce qui fait fonctionner les sociétés humaines, y compris leur fonctionnement économique, dont nous n'avons pas le commencement du début d'une compréhension, et qu'il nous faut acquérir si nous voulons en reprendre le contrôle qui nous échappe plus que jamais. En somme, ce constat qui peut paraître désespérant me paraît plutôt au contraire une bonne nouvelle. Nous sortons de l'âge infantile du socialisme. Ce qui nous est demandé par la situation actuelle, c'est tout simplement de devenir grand. Je vous remercie de votre attention.